France Inter.
Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, la France insoumise qui crie à la censure.
Après que l'université de Lille a interdit la conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine prévue demain, comme le demandaient des élus de droite, tout est parti de la présence d'un logo sur une affiche. Explication dès le début de ce journal.
Les autres titres, Kevin.
Nous serons au Proche-Orient où le Hezbollah libanais allié de l'Iran a fait 14 blessés côté israélien. Une escalade dans la région qui suscite beaucoup d'inquiétude du côté des familles d'otages français retenus en Iran, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, TikTok une fois de plus dans le viseur de Bruxelles. Et puis Jul a fait surchauffer Internet aujourd'hui avec la mise en vente des billets pour ses concerts au Stade de France et au Vélodrome. C'est évidemment complet.
Et on en parle avec le spécialiste du hip-hop marseillais Julien Valnet, invité de ce journal. Dans le 18-20 ce soir, faites vos jeux. On est à 100 jours du rendez-vous, mais la France va-t-elle récupérer sa mise? Les jeux financent les jeux, c'est le Entrée de Paris 2024. Alors on va comparer Rio, Pékin, Londres pour voir si ces jeux-là peuvent être rentables entre coûts et surcoûts et réutilisation des infrastructures et quelles retombées économiques. Au-delà de la fierté nationale, bien sûr, non quantifiable. Au menu de Sous les radars, le bœuf argentin à la renommée mondiale boudé par les locaux. Un monde sans tabac. À 18h50, les députés britanniques ont voté un projet de loi qui interdirait à jamais la vente de tabac à ceux qui ont 15 ans aujourd'hui. Et dans le cinéma en VO, Resilient Man, un documentaire sur la renaissance d'un danseur qui redevient une étoile. Et en deuxième heure, le téléphone sonne, on va boire de l'eau. Mais on aimerait bien qu'elle soit propre. L'eau en bouteille vendue 100 fois plus cher que l'eau du robinet n'est pas aussi limpide qu'elle le prétend. Une bouteille sur trois a subi des traitements non conformes, comme vous le révélait une enquête de Radio France il y a quelques jours. Alors, comment nous y retrouver? Quelle eau consommez-vous? Comment? Pourquoi? Toutes vos questions sont les bienvenues. 01 45 24 7000.
France Inter.
Jean-Luc Mélenchon ne donnera donc pas de conférence demain à l'Université de Lille.
L'établissement a décidé d'interdire cette réunion sur la Palestine que devait tenir le leader de la France insoumise en compagnie de la militante franco-palestinienne Rima Hassan, candidate LFI aux élections européennes. Les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sérénité des débats, estime l'université, après deux jours de polémique, en raison notamment d'un logo présent sur l'affiche de l'événement, une carte d'Israël et des territoires palestinien, rouge sur fond vert par-dessus. Il était écrit « Libre Palestine ». Certains y voient une négation de l'existence d'Israël. Bonsoir Claire Flochel.
Bonsoir.
Les critiques sont venues des macronistes, de la droite, mais aussi du Parti Socialiste.
Oui, et LFI y va fort dans un communiqué titré « Stop à la censure ». Le mouvement dénonce une instrumentalisation par des partisans du soutien inconditionnel au gouvernement Netanyahou et tacle, je cite, « l'impulsion du député PS Jérôme Guedj ». Le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, s'en explique.
C'est le premier qui a monté une polémique sur le logo de cette association, qui est une polémique sans aucun fondement, puisque cette association, contrairement à ce que disait Jérôme Guedj, n'a jamais contesté l'existence de l'État d'Israël. C'est une association qui porte la solidarité avec les populations palestiniennes qui sont aujourd'hui victimes d'un carnage. C'est le premier à avoir fourni du carburant pour qu'ensuite cette polémique puisse être reprise par la droite, l'extrême droite et les macronistes.
Plusieurs élus chez Renaissance, au Rassemblement National ou chez les Républicains se sont en effet opposés à la tenue de cette conférence, en raison notamment de ce fameux logo. Pas moi, ni personne au Parti Socialiste se défend le député Jérôme Guedj.
Je disais que ce logo-là me posait problème, mais à aucun moment il n'a été question de demander l'interdiction de ce rassemblement. Moi, je suis favorable au débat et à la discussion. Ça permet de faire du barouf et en même temps de stigmatiser. On est en période de campagne électorale, il faut que personne ne soit dupe. Et à travers moi, eh bien, c'est la campagne que nous menons avec Raphaël Glucksmann. C'est vrai que sur ce sujet-là, on peut avoir des différences d'appréciation. Mais vouloir discréditer par des mensonges ses compétiteurs, c'est pas très glorieux dans le débat démocratique.
Décidément, rien ne va plus entre le PS et LFI. Les deux partis se tirent régulièrement de à boulet rouge. Pas plus tard que le week-end dernier sur France Inter, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, accusait à nouveau Jean-Luc Mélenchon de diviser la gauche. En ce qui concerne enfin la conférence sur la Palestine, eh bien, elle se tiendra tout de même demain dans un nouveau lieu annoncé LFI. On devrait le connaître dans les prochaines heures.
Un nouveau lieu annoncé uniquement aux personnes qui se sont inscrites pour cette conférence. Merci Claire Flochel, service politique de France Inter. Autre réunion politique annulée hier, celle de plusieurs dirigeants de partis d'extrême droite européens. dont le Premier ministre hongrois Viktor Orban ou encore Éric Zemmour à Bruxelles. Elle a pu reprendre aujourd'hui après la décision du Conseil d'État belge qui a invalidé l'arrêté d'interdiction pris par la commune qui accueillait l'événement.
Et au Proche-Orient, le Hezbollah attaque une nouvelle fois Israël.
Le groupe armé libanais allié de l'Iran a visé une base militaire de l'armée israélienne aujourd'hui qui confirme que 14 soldats ont été blessés, dont 2 grièvement. C'est la deuxième attaque en 2 jours à la frontière entre le Liban et Israël. Depuis Ramallah en Cisjordanie, occupée pour France Inter, la correspondance d'Alice Froussard.
Oui, la tension monte. L'autre allié de Téhéran, le Hezbollah libanais, affirme avoir mené, je cite, « une attaque complexe avec des missiles guidés et des drones explosifs contre un poste de commandement de l'armée israélienne. Une riposte à des frappes qui ont tué hier 3 de ses combattants, dont 2 officiers de la milice libanaise. Cela n'est pas nouveau. Depuis le mois d'octobre, les frappes israéliennes se sont multipliées sur le sud du Liban. Plusieurs villages libanais ont été partiellement détruits. Au moins 273 combattants et 70 civils ont été tués pour bientôt 200 jours de guerre. De l'autre côté, la partie nord d'Israël est aussi la cible quotidienne de roquettes, de missiles et de drones du Hezbollah. Mais les pertes sont beaucoup moins lourdes. 18 civils et militaires tués en 6 mois. En revanche, si ces échanges de tirs restent plutôt contenus de part et d'autre de la frontière, le contexte régional a profondément changé depuis ce week-end. Après l'attaque iranienne, toute la région est suspendue à une potentielle riposte israélienne. Hier, le cabinet de guerre, par la voix de Benny Gantz, a promis une réponse sans dire si ces représailles seront dirigées directement vers l'Iran ou un de ses alliés, comme le Hezbollah libanais.
Alice Froussard. Et à l'instant, Emmanuel Macron estime, je cite, que c'est notre devoir, fermer les guillemets, d'élargir les sanctions contre l'Iran après l'attaque de l'Iran contre Israël le week-end dernier. Une tension régionale et la perspective donc de sanctions occidentales contre Téhéran qui inquiètent les familles d'otages français détenus en Iran ce soir. Ils sont encore 4, dont Cécile Collère, cette enseignante syndicaliste, est en prison depuis près de 2 ans, accusée d'espionnage, de même que son compagnon Jacques Paris. Noémie Collère est la sœur de Cécile.
Depuis en fait l'annonce du ministère des Affaires étrangères qui appelait tous ses ressortissants à quitter la région, y compris les familles des agents diplomatiques, on est terriblement angoissés, on assiste à l'escalade des tensions, nos proches sont en plein milieu de tout ça, on ne sait pas du tout ce qui va arriver, là ils sont plus que jamais en danger, d'autant qu'ils sont dans cette situation depuis bientôt 2 ans et qu'on voit toujours aucune avancée, donc voir que la situation s'envenime, c'est terriblement angoissant pour nous.
Vous avez des demandes particulières vis-à-vis du gouvernement français ?
Notre demande, c'est toujours la même, c'est qu'ils intensifient leurs efforts pour ramener nos proches le plus vite possible, parce que ça fait bientôt 2 ans pour Cécile et Jacques, 18 mois pour Louis et Olivier. On voit toujours aucune perspective positive et en fait, ça devient vraiment insupportable pour eux et aussi pour nous de se dire que ça peut encore durer comme ça des mois, voire des années. C'est insupportable.
Noémie, la sœur de Cécile Coller, ressortissante française retenue en Iran, qui répondait à Éric Biegala. Pendant ce temps, les chefs de la diplomatie britannique et allemande ont rencontré Benjamin Netanyahou aujourd'hui en Israël, le Premier ministre israélien, qui réfute toute allégation, je cite, quant à une famine dans la bande de Gaza. Israël fait tout son possible sur la question humanitaire, affirme-t-il dans un communiqué.
Voilà une remontrance qui tombe mal.
Au moment même où le gouvernement présentait ce matin son plan de stabilité qui détaille la manière de réduire le déficit public d'ici à 2027, le Haut Conseil des Finances Publiques lâchait que ses prévisions manquaient, je cite, de crédibilité et de cohérence. Le plan prévoit le retour à un déficit de 3% du PIB d'ici 3 ans. Et alors qu'entre MaPrimeRénov', les franchises médicales ou encore les coupes dans la culture, Bercy prévoit 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires cette année, eh bien le HCFP estime que c'est insuffisant, Fabien Cazot.
Un déficit inférieur à 3% de notre richesse nationale, le Haut Conseil des Finances Publiques n'y croit pas une seconde. Cela supposerait un effort beaucoup plus massif que ce que le gouvernement envisage aujourd'hui dans son programme de stabilité budgétaire. Après le dérapage à 5,5% l'an dernier, le gouvernement maintient de son côté que 3% reste un objectif de déficit réaliste, quoique ambitieux, pour 2027. Il se base notamment sur des prévisions de croissance économique de plus en plus favorables d'ici la fin du quinquennat, 1% cette année jusqu'à 1,8% en 2027, prévision optimiste tacle encore le Haut Conseil des Finances Publiques, qui voit mal comment la croissance pourrait augmenter dans ses proportions. question si en parallèle l'État fait les économies nécessaires pour redescendre sous la barre des 3% de déficit. Cette nouvelle charge du Haut Conseil, émanation de la Cour des comptes, tombe au plus mal pour le gouvernement qui attend maintenant le verdict des agences de notation sur la soutenabilité de la dette française dans les prochaines semaines.
Fabien Cazot, chef du service économie et sociale de France Inter. Du côté des finances, des Français maintenant de leur portefeuille, Eurostat confirme que l'inflation dans la zone euro a ralenti en mars sur un an autour de 2,5%. Mais le budget des ménages a été entamé depuis deux ans. On paye aujourd'hui parfois plus cher pour des produits de moins bonne qualité. C'est ce que l'on appelle la cheapflation ou quand les industriels remplacent des produits par d'autres moins chers parce que moins bons. Bonsoir Mariam El Kurdi.
Bonsoir.
L'ONG Foodwatch qui travaille sur ce sujet depuis plusieurs mois met en cause aujourd'hui trois nouvelles marques.
Oui, des marques connues comme Fleury Michon, Nestlé ou encore le Gaulois du grand groupe européen de la volaille LDC. L'ONG a regardé de près l'évolution du prix et des ingrédients, de leur cordon bleu par exemple. Résultat, en deux ans, la qualité du produit a baissé. Moins de fromage, moins de poulet, alors que le coût du paquet a augmenté, s'insurge Audrey Maurice, chargée de campagne chez Foodwatch France.
La viande de poulet est passée de 58 à 54%, l'emmental de 5 à 3%, et en parallèle, la chapelure de 22 à 26%. Donc on voit bien qu'il y a la proportion des ingrédients les plus nobles, en tout cas de ceux qu'on s'attend à trouver dans le produit qui baisse, et les ingrédients bon marché qui viennent probablement les compenser. Et tout ça, ça se passe en parallèle d'une explosion du prix au kilo de plus 25%, et ça, c'est en tenant compte de l'inflation.
Alors, certains industriels répondent qu'ils ont simplement changé leurs recettes pour répondre au goût, aux attentes des consommateurs. Réponse insatisfaisante, selon l'ONG.
Quand vous interrogez des consommateurs et des consommatrices sur cette pratique de la cheapflation, les gens, ils sont agacés. Ça les énerve, en fait, ces pratiques-là, parce que c'est opaque, ça manque de transparence et parce que c'est la triple peine pour eux.
Oui, triple peine, parce qu'en plus de l'opacité pointée du doigt, le produit payé plus cher et moins qualitatif, insiste Foodwatch. L'ONG lance une pétition contre cette pratique jugée abusive et demande un encadrement, je cite, « des profits excessifs des grosses entreprises de l'industrie alimentaire ».
Explication signée Mariam El Kurdi.
La Commission européenne en mode action-réaction vis-à-vis de TikTok.
Son propriétaire chinois, le groupe Biden, s'est sommé ce soir par Bruxelles de s'expliquer, de donner des détails sur l'évaluation des risques que peut représenter TikTok Lite, cette nouvelle application qui fait tant parler, disponible en France et en Espagne depuis un peu moins d'une semaine. Vous savez, elle permet notamment de gagner des bons d'achat Amazon juste en regardant des vidéos. Bonsoir Manon Derdevet.
Bonsoir.
La commission est fâchée et donne 24 heures à TikTok pour répondre à ses demandes.
Oui, la commission européenne devenue la vigie du numérique. Selon elle, le groupe chinois aurait dû faire une évaluation des risques avant de déployer TikTok Lite dans l'Union européenne. L'exécutif européen s'inquiète de l'impact de ce système de récompense sur la santé des mineurs, même si, en théorie, cette nouvelle version de TikTok n'est ouverte qu'aux utilisateurs âgés de plus de 18 ans. Il alerte aussi sur le risque de comportements addictifs qui pourraient découler de cette nouvelle fonctionnalité. TikTok, déjà dans le collimateur de la Commission européenne, est également sommé de répondre à une série de questions. Il a jusqu'au 26 avril pour le faire. On ne parle pas à ce stade de mise en cause, mais d'une première étape qui pourrait déboucher sur une éventuelle enquête formelle à terme de possibles sanctions financières si TikTok a effectivement enfreint la réglementation européenne. Cette demande d'explication arrive dans le cadre de la nouvelle législation européenne sur les services numériques. Cette dernière impose depuis l'année dernière aux géants d'Internet, dont TikTok, des règles renforcées pour garantir la sécurité des utilisateurs.
Manon Derdevet, service numérique de France Inter.
Sans surprise ce soir, les deux dates affichent complètes.
Celle des concerts du rappeur marseillais Jul au printemps 2025, l'homme le plus écouté de France depuis de nombreuses années a rempli le Stade de France, 80 000 places, et le Stade Vélodrome, 60 000 en quelques heures seulement, quelques minutes peut-être même, on n'a pas encore le chiffre officiel, mais pour vous donner une idée, jusqu'à 800 000 personnes se sont retrouvées ce midi en liste d'attente pour acheter des places.
Bonsoir Julien Valnet.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur de Mars, histoire et légende du hip-hop à Marseille. Des billetteries prises d'assaut. Jul a raison de se définir comme un ovni.
Oui, je crois, hein, c'est assez démentiel la rapidité avec laquelle ça s'est vendu. Mais oui, je pense, oui. Mais d'ailleurs, il n'arrête pas de nous le dire puisque il nous dit appelle-moi, on m'appelle l'OVNI ou appelle-moi E.T. ou d'ailleurs aussi ou j'ai toujours les yeux vers la lune car j'ai rêvé que je touchais les étoiles. Et effectivement, c'est un OVNI à tout un tas de niveaux déjà par les chiffres de vente de stream qui sont absolument démentiels, par la rapidité à laquelle il a vendu ses places, mais c'est aussi par le fait que c'est un vrai stack à noviste de la production. Enfin,
il produit deux albums par an, c'est ça?
Ouais, enfin c'est là je suis allé sur la fiche Wikipédia juste avant que vous m'appeliez. La liste, on scroll sans fin, c'est incroyable. Une productivité incroyable. Et en même temps, il s'est fait un petit peu tout seul quand même.
Alors, on va y venir, mais je voudrais juste revenir sur le succès un instant. Jules, c'est 10 ans de carrière, 7,5 millions d'albums vendus, puisqu'on parlait des albums, 26 disques d'or, 22 de platine. Pour donner une idée, on est sur les scores de Johnny Hallyday. Pourquoi ouais. y a-t-il une Jules mania en ce moment dans notre pays?
Écoutez, c'est toujours difficile à dire, mais je pense qu'il y a... Il y a un faisceau d'éléments qui pourrait peut-être nous éclairer un petit peu. Déjà, effectivement, le fait qu'il se soit vraiment un producteur staccanoviste, ça doit participer à la chose. Mais je crois que surtout, Jules, il a une forme d'authenticité qui parle aux gens. En fait, il a une façon de rester simple, d'être proche des gens. Je regarde ce gars, j'ai l'impression que c'est quelqu'un comme vous et moi, en fait.
Proche de son public, vous l'avez approché, Jules. Et on dit qu'il est sympa, en fait, il cultive aussi son côté, au fond, je suis un mec simple malgré mon succès.
Oui, je crois, mais je pense que c'est vraiment un mec simple. Et effectivement, c'est le mec qui s'habille en quechua, qui va pas s'habiller en Dior, qui va rester... Enfin, je sais pas, il y a un truc, j'ai noté ça sur un bout de papier, là, il y a 2 minutes. J'ai écrit « Hollande a voulu être un président normal, Jules, c'est le rappeur normal ». Il y en a d'ailleurs un des deux qui a mieux réussi que l'autre dans la normalité. Mais je pense qu'il y a ce truc de voilà d'être proche des gens, mm-hmm. d'être quelque part un mec lambda qui a réussi, en fait.
Comment il se situe dans le rap marseillais?
En fait... Jules, il est vraiment dans une forme de filiation très forte, en fait. Alors, les esthétiques varient et divers en fonction des époques, c'est évident. Mais Jules, il est clairement dans cette continuité-là. Par exemple, il y a un trait esthétique du rap marseillais qui est très fort, qui est le côté mélancolique qu'on va retrouver beaucoup dans le rap des années 90, par exemple, et que on va retrouver aussi chez Jules. Il y a même un morceau qui s'appelle « Mélancolie du soir », par exemple. Mm-hmm. Et en parallèle, donc Jules a un succès public qui est extraordinaire, qui est inédit au niveau du rap marseillais, au-delà d'Ayam, au-delà de tous les grands qui sont passés avant. Et en même temps, il est validé par tout ce qui compte de rappeurs importants à Marseille et en France. Et notamment, parlera Luciano, qui est donc un des rappeurs de la Funky Family, qui est considéré comme le rappeur préféré des rappeurs, des spécialistes. Donc à partir du moment où le rap lui-même valide Jules, on est clairement dans la continuité. Et après, il y a aussi cette continuité dans le fait d'essayer d'aider le terrain, les autres, ceux qui n'ont pas eu toute cette lumière, à briller à leur tour. Alors, Ayam a essayé de le faire, notamment par exemple Imhotep d'Ayam avec le label Kif Kif et Chronique de Mars. C'est ce qu'a fait Jules avec Très Organisé, Bande Organisée, etc.
Oui, donc il est sympa et en plus il leur fait la courte échelle. Est-ce que vous serez au Vélodrome le 25 mai?
J'ai pas eu le temps d'avoir des places.
Dommage, vous n'étiez pas le seul à attendre, à remarquer. Oui. Merci beaucoup Julien Valnet. Merci beaucoup. On écoute un extrait du dernier album de Jules, Love de toi.
J'ai tout gâché, j'ai fait n'importe quoi.
Et l'actualité ce soir, c'est aussi la Dream Team américaine version 2024 confirmée à 100 jours des JO. On parle de basket, bien sûr, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid et j'en passe. La Team USA a officialisé aujourd'hui sa composition 5 étoiles. Victor Wembanyama et les Bleus auront donc fort à faire cet été. Ce J-100 fêté en grande pompe aujourd'hui au Grand Palais éphémère à Paris, alors que les Jeux et leur organisation sont parfois parfois très critiquée ces derniers jours. Écoutez à ce propos la réponse de l'escrimeur Yannick Borel, médaillé d'or par équipe en 2016 à Rio.
Il y a peut-être des inconvénients à accueillir des Jeux Olympiques à Paris. Mais faut aussi voir le bon côté des choses. Pour moi, c'est surtout une occasion pour la France et les Français de montrer comment on peut accueillir le monde. Mon père, par exemple, était venu me voir aux Jeux de Londres en 2012 et il avait un pied dans le plâtre, donc il n'arrivait pas bien à se déplacer. Et il a le souvenir que les Anglais dans le métro étaient très serviables et l'ont beaucoup aidé. Qu'est-ce qu'on voudra montrer aux autres ? Est-ce qu'on voudra montrer une image de, comment dire, de contestataire ? Ou plutôt l'image de gens, ok, on a des problèmes, comme tout le monde, mais à ce moment-là, on a envie d'ouvrir grand les bras au monde entier et leur dire, bah, venez, notre pays, c'est une terre d'accueil et on va vous montrer comment on accueille les gens chez nous, quoi.
Voilà Yannick Borel au micro France Inter, d'Emma Sarango et puis la pluie, le froid et même la neige. Voilà ce qu'ont dû affronter cet après-midi les coureurs de la Flèche Wallonne en plus du terrible mur de Huy. Et c'est un Gallois qui s'est imposé, Steven Williams. Le Français Kevin Vauclin termine deuxième. Si on était taquin, on dirait que rien n'est plus normal qu'un Britannique qui gagne sous un temps de cochon.
Et taquin vous l'êtes, merci Kevin. La météo justement, on en parle.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous.
Du soleil sur le nord-ouest, mais des averses partout ailleurs.
Oui, dès le matin, les éclaircies s'imposeront entre les côtes de la Manche, les Ardennes, l'Île-de-France, la Touraine et la Vendée. La matinée sera aussi bien ensoleillée sur le pourtour méditerranéen, dans une ambiance toujours ventée. Mais sur le reste du pays, les nuages seront plus étendus, quelques averses circuleront. Ces averses seront plus marquées près du relief avec parfois de la neige à très basse altitude. L'après-midi restera instable et capricieux entre les Pyrénées, le Massif central jusqu'à la façade est avec encore des averses localisées mais pouvant aller jusqu'à l'orage entre le nord de la Corse et les Alpes du Sud. La limite plus neige remontera un peu vers 700-800 mètres d'altitude en général. L'ouest de la Provence sera épargné et gardera de belles éclaircies et puis le soleil prendra aussi de plus en plus de place sur un large quart nord-ouest se propageant vers l'ouest lorrain, le centre-val de Loire, le Poitou-Charentes et jusqu'aux Landes.
Avec des températures toujours très trop fraîches.
Et dès la nuit prochaine, deux petites gelées seront possibles. Alors ces gelées seront faibles et localisées, mais deviendront plus fréquentes durant la nuit de jeudi à vendredi. Et puis les températures maximales resteront aussi sous les valeurs de saison, malgré une petite hausse sous le soleil du nord-ouest. Demain après-midi, prévoyez 9 degrés à Aurillac, 11 degrés à Lyon et Strasbourg, 12 degrés pour Metz, 13 degrés à Brest, Caen, Lille, Bourges ou encore Toulouse. On attend 14 degrés à Paris, 15 degrés à Marseille et Biarritz, 16 degrés pour Perpignan et Bordeaux et 18 degrés du côté de Bastia.
Et vous reviendrez nous parler du ciel après le journal de 19h.